Donc, par la grâce de Dieu, nous voulons continuer notre étude sur le livre de Genèse. Notre cours intitulé Genèse 1, une étude sur le premier 11 chapitres de Genèse. Et donc, nous avons terminé avec la création de la femme. On a dit en Genèse 2, verset 18, l'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Je lui ferai une aide semblable, une aide semblable. Et nous avons dit que l'homme est incomplet sans la femme. La femme peut fortifier son mari et assister dans l'accomplissement de la volonté de Dieu pour leur vie. Et donc, dans le chrétien, si on peut dire cela, Dieu veut mettre les couples ensemble, les hommes, les femmes ensemble, qui va aider l'un et l'autre. Donc, la femme peut avoir un appel, l'homme peut avoir un appel. Et Dieu voulait les mettre ensemble afin qu'ils puissent arriver au même but. Donc, ils sont là afin de les aider. On ne peut pas accomplir cela sans notre femme. On ne peut pas accomplir cela sans notre mari. Donc, c'est comme ça que Dieu avait prévenu le mariage. Et nous voulons, si vous êtes célibataire ici, je peux vous exhorter à attendre le choix de Dieu. Attendre le choix de Dieu. Donc, si vous êtes déjà marié, vous avez le choix de Dieu. OK? Et restez ensemble et avoir la victoire. Amen. Donc, maintenant, nous voulons continuer. Numéro 1, le profond sommeil. Le profond sommeil. Genèse chapitre 2, verset 21. Genèse chapitre 2, verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Maintenant, nous regardons Dieu le chirurgien. OK? Dieu le chirurgien. Il est en train de faire une intervention sur Adam. Pour faire un travail très important, très, très important. Et quand Dieu est le chirurgien, il est le meilleur, n'est-ce pas? Il est le meilleur. Donc, il a bien opéré sur Adam. Il n'y a pas la douleur, donc il n'y a pas l'anesthésie. Donc, il a donné un profond sommeil à Adam et il a fait son travail. Donc, il a refermé la chair à sa place. Et donc, quand Adam est réveillé, donc il y a Ève qui lui attend, n'est-ce pas? Le travail de Dieu, ce que Dieu a fait pour lui. Mais nous voulons considérer brièvement le profond sommeil ici. Donc, nous le voyons trois fois dans les Écritures, ici en Genèse 2. Adam, pour la création d'Ève. Aussi en Genèse 15, Genèse chapitre 15, nous voyons que Dieu aussi fait tomber Abraham dans un profond sommeil pour l'alliance souveraine qu'il avait fait avec lui, qu'il avait engagé avec lui. Et donc, Abraham est dans un profond sommeil pour cela. Et aussi, nous voyons un profond sommeil en 1 Samuel chapitre 26, quand Dieu a fait tomber un profond sommeil sur Saül et sur toute l'armée qui est avec lui afin d'éprouver David. Afin que David puisse entrer au milieu du camp et personne s'est réveillé. Et donc, c'est pour éprouver David, s'il va tuer Saül ou pas. Donc, c'est quand il y a quelque chose comme cela, donc c'est dans les cas qui est important. C'est les choses importantes que Dieu a fait, cette profonde sommeil pour Adam, Abraham et Saül. Maintenant, et dans votre livre, vous allez regarder, vous allez lire sur le cas de Dr. Bailey. Dr. Bailey, il a aussi eu un moment que le Seigneur lui a fait tomber dans un profond sommeil. Et je vais vous laisser lire cela, OK? Donc, il y a, voilà, nous voyons les sommeils dans la Bible. Maintenant, nous voulons voir l'institution divine du mariage. Le mariage vient de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme. C'est l'idée de Dieu. Ce n'est pas l'idée d'Adam ni Ève. Genèse, chapitre 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Donc maintenant nous voyons ce que Dieu a fait avec la côte qu'il avait prise de l'homme. Il a fait un bon travail avec une côte sous le mont. Avec une côte sous le mont, il avait fait Ève. Au commencement, la femme vint de l'homme. Il est dit que l'Éternel Dieu forma une femme et il l'amena vers l'homme. Dieu avait amené Ève à l'homme. Et c'est ce que Dieu fait aujourd'hui. OK? C'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Si vous êtes dans une église, vous êtes célibataire, vous n'avez pas engagé ou eu un mariage avant, restez dans votre église et attendre que Dieu amène votre Ève vers vous. Je parle aux hommes maintenant, OK? Je parle aux hommes. Ne bande pas de l'église après église en cherchant votre Ève. Ça, ce n'est pas la façon que Dieu travaille. Aussi pour les femmes, je ne veux pas vous regarder dans toutes les églises pour chercher votre Adam. Donc, il faut rester là où le Seigneur vous avait placé. Et à un moment donné, il va vous amener vers votre Adam. OK? Priez Dieu et obéir à ce qu'il dit. Obéir à ce qu'il dit. Et vous aurez votre Adam, vous aurez votre Ève. OK? Si vous cherchez de faire cela vous-même, vous allez faire un désastre. OK? Vous êtes en Dieu maintenant. Vos enfants sont en Dieu. On parle à vos enfants aussi. Vous avez les enfants, vous avez les filles, les garçons. Il faut aussi les éduquer, les préparer, les enseigner afin qu'eux-mêmes aussi, ils puissent garder cela et attendre le choix de Dieu. Os de mes os. Os de mes os. 2 verset 23. Genèse 2, 23 à 24. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Devint une seule chair. Donc, c'est la réponse que Jésus a donnée aux pharisiens en Matthieu chapitre 19. On a vu cela le premier soir. Matthieu 19, verset 4 à 6. Matthieu 19, verset 4 à 6. C'est la réponse de Jésus aux pharisiens. Devint une seule chair. Ça, c'est un processus qui prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qui arrive de nuit à jour. Ça prend du temps. Ça prend du prière. Ça prend d'un engagement. Ça prend de l'amour. Même dans les difficultés, dans les temps de détresse, que Dieu puisse nous aider toujours et nous devenons une seule chair. Le mariage est très important parce que ça représente la relation entre Christ et son Église. C'est pourquoi nous ne pouvons pas prendre le mariage léger. Il y a les gens qui prennent le mariage très léger. Oh, je vais me marier. Pourquoi pas? Donc, je veux être marié. Je vais me marier. Et si ça va bien, très bien. Si ça n'allait pas, je vais laisser ça et prendre d'autres choses. Mais on ne peut pas faire cela avec quelque chose qui représente la relation entre Christ et son Église. Est-ce que nous voulons que Christ nous traitons comme cela? Que Christ traitait son Église comme ça? Aïe, jamais. Non. C'est très sérieux pour Jésus. C'est très sérieux pour nous aussi. Éphésiens chapitre 5, versets 30 à 32. Le mariage est un type de la relation entre Christ et son Église. son épouse, nous. Nous. Donc bientôt, nous allons considérer l'état de Adam et Ève à ce moment. L'état de Adam et Ève à ce moment, ils sont dans un état d'innocence. Un état d'innocence. Je vais vous montrer. L'état d'innocence. Genèse 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient point honte. Ils n'avaient point honte. Assurément, leur pensée à ce moment est beaucoup plus différente que notre aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui avait changé. Il n'y a pas de honte dans cet état d'innocence qu'il a à ce moment. Où il n'y a pas le péché, il n'y a pas la honte. Il n'y a pas la honte. Donc, Dieu voulut qu'Adam et Ève fûment innocents pendant le temps ils sont mis à l'épreuve. On a parlé de cela. Nous sommes créés pour les épreuves. Et Dieu voulut qu'Adam et Ève soient innocents pour ce temps d'épreuve. Pour ce temps d'épreuve. Ils sont innocents. Leur pensée n'est pas comme notre aujourd'hui. Même nous sommes nés avec une autre pensée. Nous sommes nés avec une autre pensée aujourd'hui, mais eux, à leur création, ils n'ont pas cette pensée. Ils sont totalement innocents. Totalement innocents. Mais le commandement a été donné, n'est-ce pas? Le commandement a été donné. Et c'est ça que nous voulons voir maintenant. C'est ça que nous voulons voir maintenant. Ils sont mis à l'épreuve. Genèse, chapitre 3, verset 1 à 14. Nous voulons voir la chute de l'homme. Chiffre, Romains 3. Genèse 3, verset 1 à 14. La chute de l'homme. La chute de l'homme. Et premièrement, le serpent séduit Ève. Le serpent séduit Ève. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Donc c'est Satan qui vient dans la forme d'un serpent. Il vient dans la forme d'un serpent. Et c'est intéressant, le nom serpent signifie siffler. C'est le travail d'un serpent, n'est-ce pas? Si vous avez vu très proche un serpent, c'est ce qu'il fait, n'est-ce pas? Il sifflait. Et c'est le sens de son nom. C'est le sens de son nom. Il y a aussi ce sens de chuchoter une incantation magique. De chuchoter une incantation magique. Il y a tout ça dans le nom de serpent. Quand nous regardons son histoire, il est bien nommé, n'est-ce pas? Il est bien nommé, il a fait son travail. Satan et ses anges peuvent changer leur forme. Ils peuvent changer leur forme. Et ici en Afrique, nous avons beaucoup des histoires des hommes qui puissent se changer sous forme d'animal, n'est-ce pas? Dans un animal. C'est vrai. On ne doute pas, Satan, il avait une puissance. Et les gens, quand ils se livrent au Satan, voilà, ils gagnent quelque chose, mais ils perdent beaucoup plus. Ils peuvent avoir une certaine puissance, mais après, l'enfer les attend s'ils ne repentent pas. Et voilà, nous devons être conscients de cela. Dans l'Occident, ils pensent que ça c'est bizarre, mais nous, ici en Afrique, nous connaissons la réalité. Satan a instigé la tentation. Ce n'est pas Ève qui a posé la question, ou bien une question, c'est Satan. C'est Satan. C'est exactement comme il a tenté Jésus dans le désert. Et Satan a déclaré quelques vérités et puis les mélanger avec les erreurs, avec les mensonges. Il a déclaré une vérité et puis il avait aussi inséré une erreur. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça les cultes aujourd'hui. Les sectes aujourd'hui, Il prend une vérité et puis il insère le mensonge et c'est ça leur doctrine. Et maintenant, l'attraction s'explique. L'attraction s'explique. Genèse 3, verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Donc, elle avait parlé avec le serpent. Jésus, il n'a pas parlé avec Satan. Quand il est tenté, il avait seulement fait, il avait déclaré la parole. Il a déclaré la parole. Il n'a pas engagé dans une conversation avec Satan. Il avait seulement déclaré la parole pour la situation. Et c'est fini. C'est fini. Ne parle pas avec l'ennemi. Ne parle pas avec l'ennemi. Il faut déclarer la parole. Suivre l'exemple de Christ. Verset 3. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc ici, Ève répète le commandement de Dieu. Textuellement, elle avait communiqué à Satan, au serpent, ce que Dieu les a donné. Ce que Dieu les a donné. Adam, il est au courant, donc c'est donné à Adam. Et donc, peut-être c'est Adam qui avait communiqué cela à sa femme. Ce n'est pas clair, mais elle sait le commandement parce qu'elle avait répété le commandement. Elle connaît le commandement. Il n'y a pas ignorance ici. Il y a innocence, mais il n'y a pas ignorance. Elle sait le commandement que Dieu a donné. Elle avait répété cela. Genèse 3, 4. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Maintenant, il n'y a aucune, ce n'est plus subtil. Le serpent, Satan, il ment directement. Il ment directement. Directement. Et ce qu'il a dit, il a déclaré qu'il n'y a point de jugement pour la désobéissance. Yeah, vous pouvez désobéir. Il n'y a aucun problème. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. On peut imaginer que le serpent est un peu différent à ce moment que ce que nous avons aujourd'hui. Donc, je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est arrêté pour avoir une longue conversation avec un serpent. Mais nous voyons les questions posées, les réponses données. Donc, nous voyons comment il est subtil. Sans hésitation, il a menti. Il a déclaré, il n'y a aucune conséquence pour votre désobéissance. Pour votre désobéissance. Il a déclaré cela ouvertement à elle. Il avait menti. Genèse 3, 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et c'est vrai, c'est l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ça, c'est vrai. À ce moment, ils ne connaissent pas la différence entre le bien et le mal. Ils sont innocents. Ils sont innocents. Il avait dit une vérité, mais il avait tendu une piège pour elle. Il avait tendu une piège pour elle. Donc, Satan a proposé un raccourci au plan de Dieu pour Adam et Ève. C'est vrai ce qu'il avait dit, d'une façon. Dieu veut que nous soyons les fils de Dieu, mais en Christ. Amen. En Christ. Nous avons pour référence Jean chapitre 1, verset 12 et Psalm 82, verset 6. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Et Psaume 92, j'avais dit, vous êtes les dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et c'est la même tentation que Satan avait offert à Jésus dans le désert. Un raccourci. un raccourci. Oui, le monde est pour vous. Je peux vous confier le monde maintenant. Il faut m'adorer. Et c'est une fête accomplie. Mais Jésus, il a gagné le monde, mais il n'a pas passé par le chemin que Satan avait proposé. N'est-ce pas? Il avait passé par le chemin de ce que son père voulait faire. Verset 6, Genèse 3, 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. C'est important. Donc, elle avait regardé trois choses de cet arbre. Mais d'abord, il est important que nous regardions ici. Elle en donna aussi, verset 6, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et c'est intéressant. Donc, selon le hébreu, auprès ici, traduire français auprès, peut signifier ensemble, mais pas dans le même lieu. C'est-à-dire auprès ici, le sens de ce mot en hébreu peut dire que Adam et ils sont dans le même endroit, mais il n'est pas là. Et moi, je pense que c'est ça ce que Satan attend. Il veut parler avec Ève à part. Il ne voulait pas approcher Ève avec son mari. Parce que deux, il peut mettre à la fuite combien de personnes? 10 000. Non, il veut aller vers Ève quand elle était toute seule comme ça. Et maintenant, comme il est rusé, il sait comment faire son travail. Et on va voir. Donc, moi, je ne pense pas que Adam est là à côté d'elle. Et le hébreu peut dire cela, qu'il est là, mais il est quelque part. Il est dans le même endroit, mais il n'est pas à côté. Il est venu et il avait trouvé cela, déjà fait. Donc, elle a dit, bon à manger. C'est bon à manger. Ève regarde maintenant les qualités de l'arbre. Bon à manger. Philippiens 3, 19. Bon à manger. Le ventre avant Dieu. Donc, nous ne savons pas c'est quel arbre. Souvent, les gens disent c'est une pommier. Moi, je ne sais pas. Ce n'est pas certain. Qui aime les pommes aujourd'hui? Voilà. On peut manger les pommes sans problème. Je ne sais pas si ça, c'est le cas d'Adam et Ève. Mais Philippiens 3, 19, ils ont pour Dieu leur ventre. Elle a regardé, c'est bon à manger. Hein? Ça, c'est avant de manger. Elle a dit, c'est bon à manger. Deuxième, agréable à la vue. 1 Jean 2,16, la convoitise des yeux. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Voici les choses contre lesquelles nous devons lutter. Mais voilà, c'est agréable à la vue. Elle avait regardé. Donc, ça semble bien à manger et c'est très agréable à mon vue. Troisième, propre à donner de discernement, d'ouvrir l'intelligence, elle a vu cela aussi. Mais nous, comme Jacques 3, 15, 17 nous dire, nous ne voulons pas la sagesse d'en bas, mais nous voulons la sagesse d'en haut, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas la sagesse qui est terrestre, charnelle, diabolique. Non, nous voulons ce qui vient d'en haut, qui est premièrement pur, ensuite pacifique, modéré, conciliante, plein de miséricorde et bon et de bons fruits, exempt de duplicité, d'hypocrisie. C'est ça la sagesse que nous voulons. Donc ce que Satan a proposé n'est pas bon. Et nous devons faire beaucoup d'attention. Nous les chrétiens aujourd'hui, où nous allons chercher la sagesse? Même dans les écoles séculières, nous devons faire beaucoup d'attention. Parce qu'ils peuvent nous enseigner les choses qui sont diaboliques. Et nous devons assurer que c'est la volonté de Dieu avant d'entrer dans une telle situation. Donc souvent, nos enfants, ils entrent à l'école et ils sont enseignés de Satan et les choses diaboliques comme ça. Et s'ils ne sont pas forts dans le Seigneur, ils peuvent être trompés. Ils peuvent être trompés. Nous devons faire beaucoup d'attention, veiller sur nos enfants, veiller sur leur école. En tant que chrétien, qu'est-ce qu'il enseigne à nos enfants? Qu'est-ce qu'il enseigne à nos enfants? Nous ne voulons pas leur livrer à les gens pensant qu'ils vont automatiquement faire ce qui est bon. Si leur cœur est déjà donné au Satan, ils vont faire les choses qui n'est pas bon. Nous devons faire beaucoup d'attention parce que nous voulons que nos enfants aient la sagesse d'en haut. Amen. Donc, Ève fut séduite. Ce n'est pas Adam qui est séduit. Adam n'est pas séduit. Ève est séduite. Et nous voyons cela en 1 Timothée chapitre 2, verset 14. 1 Timothée 2, 14. Séduit, ici, veut dire tromper, tricher. Tromper, tricher. Et ce n'est pas Adam, 1 Timothée 2, 14, ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Moi, je ne pense pas que Adam est présent pour cette discussion entre Ève et le serpent. Mais Ève n'a pas donné cela à Adam pour un jugement aussi. Elle n'a pas dit, ah, attendez un instant, s'il vous plaît. Donc, ça c'est contre ce que Dieu a dit, ou bien je ne sais pas. Donc, je dois parler avec mon mari. D'abord. Je dois parler avec mon mari d'abord. Si elle avait fait cela, maintenant elle attend, Satan va... Je veux qu'elle mange maintenant. Parler avec Adam, oh, ça ce n'est pas bon. Mais Ève n'a pas donné cela à Adam. Femme, donnez les choses à votre mari. S'il y a une décision, s'il y a quelque chose, il faut parler à votre mari. Voilà la situation. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que tu penses? Même une mari non-croyant, si nous prions avant, il peut parler la parole de Dieu. On a vu. Mais c'est ça le problème. Elle n'a pas donné cela à Adam avant de manger le fruit. Et il est arrivé après Ève à manger le fruit de l'arbre. Mais il a décidé lui-même de joindre elle, de aussi manger. Il a vu qu'elle est maintenant dans un tel état, elle avait déjà mangé, il dit, ah, je vais manger aussi. Mais ici, il a dit, ah, ça c'est terrible, hein, Ève? Moi, je vais aller parler avec Dieu. Tais-toi. Je dois aller parler avec Dieu. On ne sait pas ce que Dieu peut faire. Mais Adam, il avait décidé aussi de entrer dans la même chose. Donc, le premier Adam emprunta le chemin de la désobéissance, choisissant Ève plutôt que Dieu. Le premier Adam est devenu péché pour son épouse hors de la volonté de Dieu. Et Jésus, le dernier Adam, est devenu péché pour son épouse, l'Église, par la volonté de Dieu. C'est la différence entre les deux Adam. Adam le premier et Adam le deuxième. Mais Adam, il a décidé, il avait aussi désobéi. Il avait aussi désobéi. Il est dirigé par ses émotions. Nous voyons que Ève a insisté que Adam mange le fruit. Genèse 3, 17. Il a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Il avait dit, vous avez écouté ta femme. Plus que moi. Et homme, c'est bon d'écouter la voix de nos femmes. Je ne veux pas dire de laisser écouter la voix de ta femme. Mais les hommes doivent faire attention, et les femmes aussi, à ce qu'il dit. Et nous voulons voir Adam et Ève essayer de couvrir leur péché. Adam et Ève essayèrent de couvrir leur péché. B. Ève fut séduit, mais non pas Adam. Ça, c'est le B. Ève fut séduit, mais non pas Adam. Ça, c'est le B. Ils voulaient couvrir leur péché. Est-ce que vous avez essayé de couvrir votre péché? Vous qui êtes là maintenant, est-ce que vous avez essayé de couvrir votre péché? Soyez honnêtes. Hein? Nous l'avons hérité de eux. C'est la tendance familiale que nous tous nous avons. Nous ressemblons nos parents, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, nous regardons. Verset 7. Genèse 3, 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu les feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc voici le premier vêtement. Le premier vêtement. La haute couture d'Adam et Ève. Avec les feuilles de figuier. Les feuilles de figuier. Ils essayaient de couvrir leur péché. C'est leur péché maintenant. Il y a péché qui s'installe. Et maintenant, la honte est arrivée aussi. Ils regardent, ah, nous sommes nous. Avant, ça ne fait rien. Mais dès qu'ils avaient mangé le fruit de cet arbre de connaissance de bien et de mal, maintenant, les choses s'est complètement changé. Complètement changé. Et les feuilles de figuier, de moyens, représentent la douceur. La douceur. Le fruit de figuier, c'est très doux, n'est-ce pas? Les figues sont dues. Et voilà, la douceur. Mais notre douceur et bonnes œuvres ne peuvent pas expier nos péchés. Ça ne marche pas. Ça ne travaille pas. Isaïe 64, verset 5. Isaïe 64, verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. La seule solution pour notre péché est le sang de Jésus-Christ. Même à cette époque, ils attendent Jésus maintenant pour résoudre leur situation. Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Donc c'est ce que Paul a déclaré dans le livre de Hébreux, l'épître aux Hébreux. Donc il faut le sang. Le sang est nécessaire. Maintenant le péché est là. Le péché s'impose et la seule solution, c'est le sang de Jésus. Donc nous voyons dans l'Ancien Testament donc que le sang des animaux a fait un petit travail donné par Dieu, ordonné par Dieu, en attendant un plus grand sacrifice, le plus grand sacrifice, qui va résoudre la situation de péché pour toutes et à jamais. Adam et Ève se cachent de la présence de Dieu. Verset 8. Genèse 3, 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et c'est ça notre cas aujourd'hui. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Isaïe 59, versets 1 à 2. Vous voyez, ces choses ne sont pas arrivées le jour après Dieu a créé Adam. Il y a une habitude qu'il avait déjà avec Dieu. Il avait une relation avec lui. Il avait l'habitude de marcher avec Dieu dans le jardin, dans le soir. Il avait développé cela. C'est-à-dire, il y a une relation avec Dieu qui est déjà en cours. C'est-à-dire, il n'a pas créé l'homme et femme un jour et puis le lendemain, ils ont tombé. Ce n'est pas ça. Il y a une relation. Donc, Dieu vient comme il avait l'habitude de faire dans le soir pour marcher avec Adam et Ève. Ça, c'est une habitude qui s'est déjà installée entre eux. Et ils ne sont plus là. Ils sont cachés. Ils sont cachés. Car le péché est entré. Le péché est entré. Avant, il avait l'habitude de parler avec Dieu ouvertement comme ça. Dieu somme, disons, a appelé Adam et Ève de répondre. Il avait appelé à Adam et Ève de répondre. Verset 9. Genèse chapitre 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Dieu sait où il est, mais il vient et il demande. Il vient et il demande. Où es-tu? Et nous aussi, nous pouvons écouter la voix de Dieu quand il dit, où es-tu? Et nous sommes cachés. Nous sommes cachés. Vous pouvez noter aussi 1 Jean 4, 19 et Romains 3, 11 et 12. Dieu nous cherche toujours. Dieu nous cherche toujours. Genèse 3, 10. Genèse 3, 10. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Genèse 3, 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Encore, c'est le péché qui est entré dedans. Et ce péché a fait un mur entre eux maintenant. Il y a un mur qui existe. Un mur qui les a séparés. Et c'est la même chose dans nos jours. C'est le mur entre nous et Dieu, c'est le péché. Partout dans le monde, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Heureusement, Dieu avait donné un remède. Il a préparé, il a fait un remède pour cela. Mais nous avons l'habitude de se cacher. L'homme voulait se cacher. Et souvent, il ne voulait pas accepter la réponse, la solution, le remède que Dieu avait fait, que Dieu avait préparé. Verset 11. Verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Et encore, Dieu, il sait très bien qu'est-ce qui s'est passé. Mais il pose ces questions afin de donner à Adam et Ève une opportunité de donner une réponse à lui, de donner une réponse. Il sait ce qu'il avait fait. Mais qui t'a appris? Qui t'a appris? Est-ce que tu as mangé dont je t'avais défendu de manger? Et nous voyons ici, Dieu a donné à Adam une occasion de se repentir. C'est une opportunité de se repentir. Mais Adam voulait se justifier. Adam voulait se justifier. Genèse 3, verset 12. Genèse chapitre 3, verset 12. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. » C'est Ève. C'est elle. Ce n'est pas moi, c'est Ève. Et j'en ai mangé. J'en ai mangé. C'est elle. Il a placé la blâme sur elle. Sur Ève. Nous connaissons cela très bien, n'est-ce pas? Ah, ce n'est pas moi, hein? C'est lui. C'est elle. C'est toute autre personne. Les hommes voulaient blâmer les femmes. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui. C'est la même chose. C'est la femme qui m'a fait du problème. Des fois, les hommes vont dire, ah, si les femmes ne sont pas là, tout va bien. Pas de problème. Pas de problème. Si on peut nous débarrasser de ces femmes-là, tous les problèmes vont partir avec eux. Et c'est faux. C'est faux. Il y a beaucoup des hommes qui voulaient, ils sont dans une marmite des problèmes. Et il veut donner cela aux femmes. Il dit, ah, c'est ma femme qui m'a fait tout ça. Mais ce n'est pas seulement ta femme. En chaque cas, il y a deux côtés, hein. Chaque histoire a deux côtés. Et maintenant, si nous pouvons parler avec la femme à part, Ève peut dire quelque chose aussi. Verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « C'est le serpent qui m'a séduite et je l'ai mangé. » Encore, ce n'est pas elle, c'est le serpent qui est le problème. Ce n'est pas moi, c'est le serpent. Elle ne peut pas blâmer Adam, ça c'est vrai. Elle avait piégé lui. Mais elle a cherché maintenant, ah, le serpent, oui, le serpent. C'est lui là. C'est lui le problème. Mais vous voyez, tous deux, indirectement, il avait accusé qui?
Dieu.
Dieu. Adam dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Et Ève, elle avait blâmé le serpent que Dieu a créé. Donc c'est Dieu. Il avait ciblé Dieu. Indirectement, il avait accusé Dieu. Jugement prononcé sur le serpent. Donc Dieu a décidé de commencer avec le serpent. Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toute le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et aujourd'hui, le serpent est la créature la plus humiliée et la plus méprisée, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime beaucoup les serpents? Vous les installez dans votre maison comme un chien ou bien comme un chat? Non. Non, ils sont très méprisés. Tout le monde, quand il voit un serpent, qu'est-ce qu'il veut faire? Tuer le serpent, tuer le serpent. Oui, écraser sa tête. On va voir bientôt, c'est ce que Jésus a fait. Mais encore, on peut supposer que le serpent qui a existé avant le chute est différent que le serpent que nous regardons aujourd'hui. Le jugement de Dieu. Satan est aussi appelé le serpent en Apocalypse 12, 9 et 20, chapitre, verset 2. Apocalypse chapitre 12, verset 9 et Apocalypse chapitre 20, verset 2. Satan est appelé le serpent, le serpent. Et voilà ce que Madame vient de dire. La tête du serpent est écrasée. Romains 16, verset 20. Romains 16, verset 20. Donc, jugement prononcé sur le serpent. Dieu a jugé le serpent. Il a jugé le serpent. Ok, maintenant nous voulons regarder le plan de rédemption, mais je voulais demander si vous avez les questions jusqu'au maintenant, ce que nous avons discuté ce soir seulement, pas semaine passée, mais ce soir, sur ce que nous avons regardé ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Marcel.
Est-ce que si Adam avait pris toute la faute sur lui, est-ce que Dieu allait prononcer le jugement sur la femme du serpent?
Est-ce que Dieu peut... Si Adam a pris toute la faute sur lui...
Est-ce que Dieu allait prononcer le jugement sur le serpent et la femme?
Well, c'est une question qu'on peut se poser. Je sais pas. Pour moi, j'ai pensé toujours... Si Adam lui-même a dit non, je ne peux pas manger... Et maintenant, s'il avait tourné vers Dieu, il dit, « Seigneur, pardon ma femme. » S'il avait intercédé pour elle. On ne sait pas ce que Dieu peut faire à ce moment. Mais lui, il a décidé de manger. Mais s'il avait fait une intercession, peut-être ça peut changer quelque chose. Mais c'est trop tard maintenant. Mais maintenant, s'il avait accepté tout le blâme sur lui-même, est-ce que Dieu va épargner le serpent et puis Ève aussi? Non, tout le monde est dans le péché maintenant. Il y a forcément un jugement. S'il y a une partie qui est innocent, qui avait obéi, maintenant s'il avait obéi, n'oubliez pas, la définition de la sainteté, c'est quelqu'un qui connaît le commandement et obéit. Si Adam avait accepté d'obéir le commandement, maintenant dans la sainteté, peut-être il peut influencer Dieu. sur l'intercession de changer quelque chose, on ne sait pas. Mais c'est trop tard maintenant. Oui.
L'autre aspect de la question, c'est que quand la femme a répété le commandement au serpent, elle a ajouté que Dieu a dit de ne pas toucher là. Est-ce que si elle n'avait pas ajouté ça, le serpent allait continuer la conversation?
Non, parce que c'est dans le même sens de ce que Dieu a dit. Donc, l'arbre est totalement défendu. Il ne peut pas manger, il ne peut pas toucher. Il doit complètement laisser cet arbre. C'est intouchable, c'est immangeable. Donc, voilà. Oui.
Après avoir mangé le fruit de l'arbre que Dieu les avait défendu,
oui.
S'il arrivait que l'homme et sa femme remangeaient le fruit de l'arbre de vie, qu'allait-il se passer?
Nous allons voir cela bientôt. La question est, si ils ont arrivé maintenant à manger le fruit de l'arbre de vie, qu'est-ce qui va arriver? Et nous allons voir bientôt. Oui, Daniel.
Moi, je voulais revenir au niveau du mariage.
Oui.
Parler que si tu es homme,
oui.
Tu vas rester dans ton église et Dieu amène ta femme.
Oui, oui.
Et s'il n'est pas le cas, est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi? Par exemple, il y a des cérémonies qui se passent à quelque part.
Oui, on peut aller aux cérémonies. Mais il y a des gens qui ils rentrent dans une église, donc ils n'ont pas une église. Mais ils bondent des églises en églises. Ils passent
pour
la femme. Ils viennent, ils font deux dimanches, ils disent, il n'y a personne ici. Donc, et ils allaient quelque part. Ça, ce n'est pas bon. Si vous êtes invité d'aller à un mariage ou bien quelque chose comme ça, il n'y a pas de problème. Et maintenant, si vous croisez, ok, ça, si c'est Dieu, pas de problème.
Okay.
Ça ne dit pas que vous êtes enfermé dans votre église, maintenant vous ne pouvez plus participer aux choses dans les autres églises. Mais ne bondez pas d'église en église en cherchant une femme, ok? Oui, madame.
La parole de Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme.
Mm-hmm.
Mais on voit ici que l'homme ne quitte pas son père. Il vient prendre la femme de lui s'ajouter à son frère, à sa famille.
Ouais. Et il y a beaucoup de problèmes à ce sujet, n'est-ce pas? Voilà. Il faut obéir la parole de Dieu, c'est mieux. C'est mieux. Parce que vous êtes en train de, et on va voir cela dans le mariage et la famille plus. Mais nous sommes en train d'établir un nouveau foyer. Un nouveau foyer. Et pour cela, on ne peut pas avoir les parents qui sont dedans. Et maintenant, l'homme, il écoute plus la voix de sa mère que sa femme. Ça, c'est un problème. Et Dieu même, il avait parlé de sorte que ça ne doit pas être ainsi. Ok? Oh, il y a trop de mains. Hein? Oui. Josué. Oui. Oui. Son rôle dans le jardin? Son rôle dans le jardin, c'est ça la question? Il est là. Son rôle dans le jardin est ce que nous venons de voir. Dieu l'a planté là-bas. Dieu l'a mis là-bas afin qu'il puisse donner le commandement à Adam et Ève de ne le toucher pas, de ne le manger pas. C'est son rôle comme ça. Et il a fait son rôle. Ok? Selon ce que nous voyons dans la parole de Dieu, c'est tout. Selon ce que nous voyons dans la parole de Dieu, c'est tout. Donc l'arbre est là, donc avec cette poison. Ok? C'est une vraie poison. Il va nous contaminer. Mais Dieu a bien dit, ne mange pas, ne touche pas, laisse cet arbre tranquille. Donc voilà, s'il avait tourné autour de cela et n'a pas touché, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ils ont accepté de faire cela, ils sont empoisonnés. Et nous tous, avec eux, nous tous, nous sommes empoisonnés. Ok, nous devons continuer. Nous devons continuer. Voilà. Genèse, chapitre 3, versets 15 à 24, chiffre romain 4, le plan de la rédemption. Le péché est arrivé. Le péché est maintenant notre problème. Mais Dieu, il avait un plan. Hallelujah!
Amen!
Amen. Dieu a un remède. La descendance promise. La descendance promise. C'est-à-dire une postérité. Il y a une postérité que Dieu avait promis. Et nous voyons cela tout de suite. Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance, disons postérité, et sa postérité, sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous voyons ici le plan prophétique de ce que Dieu a pour résoudre cette situation maintenant. Donc, il y a une descendance de cette femme. Et il y a une descendance de Satan. OK? Donc, les deux vont travailler afin que le plan de la rédemption s'installe. Et nous allons voir cela tout de suite, maintenant. C'est la première évocation de jugement de Satan dans la parole de Dieu. Sur la croix, nous voyons que Jésus est blessé. C'est comme son talon a eu une blessure. Mais une blessure sur le talon n'est pas mortelle, n'est-ce pas? Mais si votre tête est écrasée, est-ce que vous pouvez prendre un pansement et puis... Non. C'est le jugement sur Satan. La descendance, la postérité de la femme, c'est Christ. C'est Christ. Et c'est la croix. C'est la croix. Et Romains 16, 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Voilà. Il est en train d'écraser. Amina? Donc, qui voulait écraser le serpent comme ça? Et jusqu'à aujourd'hui, il y a une inimitié entre nous, l'Église, la descendance de la femme, et la descendance de Satan. La descendance de Satan. Ça continue. Ça continue. Et bientôt, nous allons voir les deux lignées. Il y a la lignée de juste et la lignée de méchant. La lignée de juste et la lignée de méchant que nous allons voir. Voilà. C'est le pied de Jésus, n'est-ce pas? OK. Le châtiment de genre humain. Le châtiment de genre humain. La femme. La femme. Genèse 3, verset 16. Genèse 3, 16. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Donc, le jugement que Dieu a prononcé sur la femme. Homme, ça vient sur nous, OK? Il y a un jugement qui nous attend. Donc, les femmes souffrent beaucoup dans leur vie. Et dans votre livre, vous allez voir que Dr. Bailey, il avait écrit de cela, les choses que je vais vous laisser de voir dans votre lecture. Mais ce que je peux dire, nous les hommes dans l'Église et les Églises, nous devons être conscients de la vie des femmes. La vie des femmes. Parce que nous sommes une couverture pour les femmes. Le père doit couvrir ses filles. Un mari doit couvrir sa femme. Et l'Église est là aussi d'aider avec les veuves et puis les autres qui n'avaient pas une autre couverture. Et s'ils sont chrétiens, ils sont dans l'Église, ils acceptent cela. Maintenant, l'Église a un travail à jouer aussi. Nous devons être conscients de la vie des femmes. Considérer les femmes célibataires, jeunes femmes, les divorcées, les veuves, les mères célibataires, disons les mères non mariées. Donc l'Église peut couvrir ces femmes si les femmes eux-mêmes acceptent cela et ils agissent bien. Ils agissent bien. Ils suivent la parole de Dieu. Et la parole va nous diriger dans ces cas. On ne peut pas tout entrer dedans maintenant, mais voilà. L'Église doit prendre soin de eux. Disons, les couvre. Les femmes sont très émotionnelles, n'est-ce pas? Elles peuvent être blessées facilement. Les femmes, Dieu les a créées émotionnelles. Donc, c'est Dieu qui les a créées comme ça. Donc, des fois, dans la banlieue, chez nous, une femme peut avoir un problème dans leur maison. Et ils crient. C'est comme ils avaient perdu leur tête. Ils crient. C'est les émotions. C'est les émotions qui dégagent un peu partout. Les femmes sont très émotionnantes. Dieu les a fait comme ça. Et peuvent être blessées facilement. Ils peuvent être séduites par les personnes malins. Et même l'apôtre Paul, il avait parlé de cela, que nous devons faire beaucoup d'attention sur cela. Mais le désir d'une femme d'abord est vers leur père. Et après, vers leur mari. C'est comme ça, c'est ce que Dieu veut. Qu'ils soient, quand ils sont petits, ils sont sous la couverture de leur père. Et leur père les couvrir et les prépare. Jusqu'au jour où il peut prendre la main de sa fille et mettre ça dans la main de l'homme que Dieu a choisi pour elle. Et maintenant, la couverture va transférer. Donc maintenant, elle est sous la couverture de son mari, elle n'est plus sous la couverture de son père. C'est ça que Dieu veut. En Timothée, chapitre 2, verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie, dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc le mot ici, sauver, veut dire être préservé ou fait bien. Si elle fait bien, si elle persévère. Donc ce mot-là veut dire, le mot sauver, que nous voyons ici, veut dire être préservé ou fait bien. Si elle persévérait. Donc, le salut d'une femme n'est pas littéralement dans l'accouchement des enfants. OK? Ce n'est pas dans l'accouchement des enfants. Mais si Dieu est avec eux, ça va. C'est ça que Paul veut dire ici en 1 Timothée. Que si Dieu est avec eux et ils continuent bien de suivre ce que Dieu a dit, Dieu est avec eux et voici leur salut. Et les femmes sont exhortées à avoir et persévérer dans la foi, c'est-à-dire de croire à ce que Dieu a dit, la foi. La charité, disons l'amour agapé de Dieu. Dieu dit, continue dans cela, persévérer dans cela. La foi, l'amour agapé de Dieu. La sainteté, d'être séparé de ce monde, de notre chair, de Satan, à Dieu. Voici la sainteté. Et Dieu a encouragé les femmes, que ce soit votre cas. Soyez attachés à Dieu et laissez le monde, laissez le péché, laissez Satan. Et aussi la bienséance. Souvent dans la parole de Dieu, nous voyons cet encouragement, cet commandement, que les femmes soient bienséantes, qu'ils prennent le contrôle de soi, ils sont sobres et prennent contrôle de eux-mêmes. Donc, ils sont émotionnels et des fois c'est une bataille, c'est une lutte de calmer les émotions, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, femmes, faire un effort. Soyez bienséants, et il est là, afin de vous aider d'avoir le contrôle de soi-même. L'homme est toujours la tête du foyer et l'autorité de la femme. Mais, homme, vous devez porter cette autorité avec douceur. Et le vrai amour. Dans le monde aujourd'hui, nous voyons le mouvement de la libération des femmes. Vous êtes libérés. Vous pouvez faire ce que les hommes font. Vous pouvez travailler comme les hommes travaillent. Vous pouvez aller en combat avec les hommes. Ce n'est plus la peine de rester sous les autorités des hommes. Allez chercher votre propre autorité. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est Satan qui avait soutenu tout cela. Parce qu'il voulait que les femmes se déplacent, quittent leur couverture, quittent la sagesse de Dieu et allaient quelque part où il peut être manipulé comme il avait manipulé Ève. C'est ça. C'est exactement ça. C'est le mensonge qu'il dit. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu a dit? Oh, tu peux le faire. Tu peux le faire. Sans problème. Oubliez ce que Dieu a dit. C'est ça. 1 Pierre 3, 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Qu'elle en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Chaque mari, il doit étudier cette verset. Oui. Parce que oui, Dieu a prononcé quelque chose sur la femme. Mais l'homme est là afin de soutenir sa femme. Et voilà. L'homme, nous avons notre responsabilité et nous allons parler sur l'homme bientôt. Après notre pause, on va tomber sur les hommes. OK? OK. Well, nous allons prendre notre pause maintenant. Que le Seigneur vous bénisse.